Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission bien-être, tous les jours en direct de 11h à 12h30. Ici, notre but tous les matins, c'est de prendre soin de vous, de vous rendre la vie plus facile à tous les niveaux, à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Alors aujourd'hui Mélanie, de quoi va-t-on parler?
Eh bien Julia, ce matin on va commencer comme tous les jours par un sujet de notre vie quotidienne et une question qui en découle: comment accompagner nos adolescentes à l'ère des réseaux sociaux? C'est vrai que la situation est parfois inquiétante avec toutes ces applis auxquelles elles ont accès. Le rapport au corps est décomplexé. Certaines le mettent en scène d'ailleurs sans forcément mesurer les conséquences. Alors pour aider nos jeunes et surtout les jeunes filles à trouver le bon équilibre, nous recevrons Béatrice Copper-Royer. Elle est psychologue clinicienne.
Et d'ailleurs, je le rappelle au passage, on vous donne la parole dans Bien fait pour vous tous les jours. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore via le compte Instagram de l'émission. Alors ensuite, à 11h35, dans notre dossier santé du jour, on va s'arrêter sur une maladie de peau qui peut gâcher la vie de ceux qui en souffrent. On va parler de psoriasis. La dermatologue Émilie Sbidian viendra faire le point sur les derniers traitements qui ont vraiment changé la donne pour les patients.
Ensuite, Julia, dès midi, on accueillera notre trio de chroniqueuses aujourd'hui pour la séquence tendance. D'abord, Margot Grossman pour la chronique gastronomie. Elle nous fera découvrir et goûter, j'espère, la cuisine ayurvédique. Et ensuite, Soizic Belin va nous décrypter, elle, un mystère du côté des loisirs de nos enfants, ce retour sans cesse de la mode des cartes Pokémon. Et oui, en 2021, les plus jeunes continuent de se les arracher.
Et enfin, Mélanie, pour conclure ce tour de table des tendances en douceur, en beauté, Maud Ravier sera également avec nous. Elle va tout nous dire sur les techniques d'extension de cils. On finira toutes avec des yeux de biche aujourd'hui, je crois.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 évidemment, et donc ce matin dans votre émission Bien-être, on va tenter de répondre à cette question: comment accompagner au mieux nos adolescentes à l'ère des réseaux sociaux?
Et oui Mélanie, c'est du souci, c'est clair aujourd'hui pour les parents de jeunes filles tout particulièrement. On va voir ensemble comment on peut les guider, ces adolescentes qu'on ne peut pas non plus complètement priver de l'accès à toutes les ressources qu'offre notre monde très digital. Mais avant cela, on va voir ce qu'a donné l'enquête de notre reporter de choc sur le sujet. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, effectivement, alors moi j'ai beaucoup de neveux qui sont adolescents, je connais un peu le sujet. Avant de répondre vraiment aux questions sur les adolescentes, je vais replacer les bases. Qu'est-ce que l'adolescence? C'est un moment où on change, et qui en parle le mieux? Ce sont les enfants. Je leur ai demandé aux plus petits, qu'est-ce qui change quand on devient adolescent?
Bah, la voix, on mue.
C'est-à-dire fais-moi une voix d'enfant.
Oui, bonjour, je m'appelle Nathan, oui.
Et ta voix d'adulte, ce sera quoi?
Oui, bonjour, je m'appelle Nathan.
Et ta voix d'ado entre les deux?
Oui, bonjour, je m'appelle Nathan.
Alors oui,
ils ont bien cerné le truc.
Ils ont bien cerné le truc, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment des détails physiques qui vont changer, mais à l'intérieur, ça bouge énormément. Et j'ai rencontré une adolescente qui a essayé d'analyser justement ce qui se passe et comment on réagit et les difficultés qu'on peut avoir quand on est justement une adolescente.
Alors ça dépend pourquoi. J'ai connu des amies qui sont dépressives et qui l'ont été parce que... Elles se mettent trop la pression à cause des notes, elles se prennent trop la tête. Et aussi au niveau de leur image, c'est pour ça qu'elles s'habillent toutes pareilles et c'est un peu affligeant.
Non, elles sont beaucoup plus informées aujourd'hui qu'à notre époque, dans les années 50, 60. Il n'y avait aucune information, beaucoup de sujets étaient tabous. Et je pense que nous étions adolescentes dans les années 70, beaucoup plus en danger.
Alors, est-ce qu'elles sont en danger aujourd'hui ou pas? On y répondra tout à l'heure. Vous avez entendu, il n'y avait pas qu'une adolescente dans le reportage également. Quand on parle d'ado, j'ai fait un petit sondage. Le premier mot qui arrive, c'est le mot téléphone. Apparemment, c'est indissociable de l'adolescent.
Ils restent toujours sur leur portable.
Oui, ils envoient des messages qui servent à rien.
Aujourd'hui, t'as mangé quoi? Oh, j'ai mangé des pâtes.
Et oui.
Quand ça arrête, on reste là, on aime plutôt quoi.
C'est
juste sur les pattes.
Mais on n'a pas la main mise sur les réseaux sociaux, sur SMS, donc c'est ce qui inquiète les parents. Est-ce que c'est plus dangereux maintenant à l'ère des réseaux? Apparemment, selon cette dame, il ne faut pas sous-estimer justement la force des adolescents.
Les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, je pense que beaucoup les jeunes ne sont pas bêtes. C'est peut-être une minorité qui utilise mal. On a l'impression que tous les jeunes sont... Mais non, nos jeunes, ils sont intelligents et capables d'utiliser correctement les réseaux sociaux.
J'étais très optimiste, peut-être.
Agréablement surpris de cet optimisme. Il n'y a pas que ça, on le détaillera tout à l'heure. Mais avant de finir, peut-être que vous connaissez cette espèce qu'on appelle les adolescents, avec qui parfois il est très dur de communiquer. J'imagine que certains parents qui nous écoutent se disent « Ah, mais tellement !» Eh ben, j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a fait un petit lexique, des mots à savoir pour traduire justement le langage adolescent. Voici le top 3 des mots à connaître. Je vous quitterai là-dessus.
Le premier mot à connaître absolument, c'est JPP, ce qui veut dire littéralement « j'en peux plus ». Pour dire « actuellement, je ne peux pas accéder à votre demande », vous dites « flemme ». Et enfin, à connaître absolument, c'est le mot « wesh ». On peut le placer en début ou en fin de phrase. C'est carrément devenu une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornica ? Wesh.
Wesh. Voilà. Celui-là, je l'avais repéré. Voilà. Mais les autres, la flemme.
Donc JPP, c'est « j'en peux plus ». Et si on n'a effectivement pas le courage de faire quelque chose, on regarde dans les yeux, on dit juste...
Je croyais que ça avait un rapport avec le foot, Jean-Pierre Papin ou je ne sais quoi.
Ah non, non, JPP, Jean-Pierre Pernaut, ça aurait
donc
pu marcher.
Donc quand on a la flemme...
Si vous avez la flemme, vous dites juste...
Flemme.
Il n'y a pas de phrase, c'est juste flemme.
Ok, flemme. Oh, merci flemme. Clément Lannou, on n'a pas flemme avec vous en tout cas. On vous retrouve demain avec de nouveaux témoignages et toujours cette même énergie s'il vous plaît qui nous lance extrêmement bien tous les jours dans notre premier sujet. Tout de suite on va donner la parole à notre invitée, c'est vous Béatrice Coppère-Royer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et co-autrice du livre « Adolescente sur le fil » aux éditions Marabout. Alors pourquoi déjà avez-vous consacré votre livre aux adolescenteux? Les garçons ne sont pas concernés, ils n'ont pas les mêmes problèmes?
Non mais parce que mais les livres partent toujours d'observations cliniques, c'est-à-dire des filles et des garçons que je rencontre dans mon cabinet. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ces dernières années, il y avait eu une accélération quand même du processus d'adolescence chez les filles, qui était vraiment déconnectée de la puberté. Mmh. C'est-à-dire que l'adolescence, en réalité, maintenant, c'est un phénomène plus de société qui est déconnecté du phénomène pubertaire et qui, chez les filles, survient très très tôt. C'est-à-dire que fin de primaire, en CM2, par exemple, les filles de 10 ans ont des comportements de beaucoup plus grandes, ne jouent plus beaucoup dans la cour de récréation, parlent énormément, font des commentaires sur les unes et sur les autres, font extrêmement attention à leur image.
À 10 ans, ouais, c'est
à 10 ans, et très souvent quand même sont dotées de téléphones portables.
Oui, j'allais vous demander c'est quoi une jeune fille adolescente, de quel âge, mais en fait c'est difficile à définir, mais en tout cas ça commence peut-être même avant le collège. C'est ce que vous
voilà,
dites.
Je pense que ça commence avant le collège et que donc il faut beaucoup, il faut être prudent par rapport à ces grandes filles qui revendiquent des comportements de beaucoup plus grandes, parce que derrière ça, il n'y a pas non plus la maturité qui va avec. Mmh. Et donc c'est un espèce de mélange qui effectivement les met un peu en danger.
Oui, parce que les petits garçons justement au même âge en CM2, eux ils jouent encore aux cartes Pokémon.
Ils continuent pas mal de jouer et les écrans, comme pour les filles, font beaucoup partie de leur univers. Mais les garçons, ils jouent beaucoup aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est jouer quand même.
Bien sûr.
Donc, ils sont moins, peut-être, ils sont beaucoup moins tôt que les filles, beaucoup moins précocement obnubilés par leur image.
D'accord. Mais justement, c'est quoi qui a changé par rapport à notre époque à nous? C'est vraiment les écrans, les réseaux sociaux, c'est ça?
Je crois que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup participé à ce souci de soi, de l'effet qu'on fait sur les autres. Elles sont, de toute façon, la société est quand même... elles sont inondées d'images. Hein. Mmh. Et donc, elles sont très, très, très soucieuses de l'effet qu'elles font.
Bien sûr.
Voilà.
Clément Lannou.
Et alors, est-ce qu'il faut interdire? J'ai pas mal d'amis qui ont des enfants qui arrivent en 6e. Mmh. Il y a cette fameuse question du téléphone, de se dire, en fait, s'il n'y en a pas, est-ce qu'on n'exclut pas justement d'un groupe d'amis ou de ne pas faire comme les autres, si les autres ont les réseaux? Ou est-ce qu'au contraire, on autorise et dans quel cas, on rajoute un danger supplémentaire? Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui rentre en 6e?
Alors, c'est pas tellement le téléphone, hein, d'ailleurs, qui est ennuyeux. C'est plutôt les smartphones avec accès à Internet sans contrôle, puisque c'est à partir d'Internet qu'elles vont sur YouTube, par exemple, regarder des vidéos, qu'elles sont très justement influencées par toutes ces images qu'elles voient. Donc c'est plus le smartphone avec Internet à disposition
qui pose problème.
Il
n'y
a pas ce genre de problème
avec un téléphone à clapper qui fait que
téléphoner.
Évidemment. Ouais.
Alors Béatrice Coppère-Royer ne fait que débuter cet entretien. On se retrouve dans quelques minutes. On va s'intéresser justement plus en détail aux dangers des réseaux sociaux, à ces codes aussi qui ont changé dans les collèges ou les lycées et qui peuvent mettre
mettre nos jeunes en danger. Comment dépister d'ailleurs, nous les parents, que notre fille est peut-être victime de cyberharcèlement? On va détailler tout cela sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Moi je m'appelle Lita, le ou bien Lola, du pareil au même.
Je fredonne, vous n'avez pas chanté ça Mélanie?
Ah,
quand
si,
vous
bien
étiez
sûr,
petite
évidemment.
Oh, c'était chouette, c'était quand on était ados, c'était il y a longtemps. Vous êtes de retour dans Bien fait pour vous, votre émission qui décortique notre vie quotidienne et ses dangers également, surtout en ce qui concerne les adolescentes qui nous entourent. C'est à elles qu'on va s'intéresser ce matin avec notre question: comment accompagner nos jeunes filles à l'ère des réseaux sociaux? On va faire le point avec Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, psychothérapeute et co-autrice du livre Adolescente sur le fil aux éditions Marabout. Alors, les téléphones portables, est-ce que c'est un des facteurs de ces changements de vie des ados en 2021?
Ce sont surtout les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'usage d'Internet sur leur téléphone, qui a quand même beaucoup, beaucoup changé les zones et qu'elles utilisent très tôt, et notamment qu'elles utilisent en réalité avant l'âge en principe autorisé, qui
et
est 13 ans.
Voilà, j'allais vous dire, il y a un âge autorisé par la loi, non?
Par la loi. Ouais. Hein, ah ouais. Donc, c'est 13 ans.
Pour les réseaux sociaux.
Pour les réseaux sociaux,
pour avoir un téléphone,
pour Instagram, etc.
Mais c'est pas respecté, je
et
peux
c'est absolument pas respecté. Donc, très tôt, elles en font usage. Et comme, au fond, il n'y a pas tellement d'éducation qui va avec, c'est là où je dis aux parents qu'il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux, mais qu'il faut avoir en tête d'éduquer les enfants au bon usage des réseaux sociaux. Parce que, de toute façon, ça fait partie de leur culture, fait partie de leur vie, donc on ne va pas les en priver. Et après tout, il peut y avoir des choses, je crois que cette dame le disait, ou un enfant le disait, ça peut être tout à fait amusant et récréatif, etc.
Donc on doit se tenir et respecter la loi, nos parents, ne pas les autoriser, par exemple, à ouvrir un compte Instagram avant 13 ans.
Vous voyez, à 11 ans, c'est possible. Les parents peuvent dire, mais bien sûr que tu auras des réseaux sociaux, bien sûr que tu auras sur TikTok,
à partir
sur
de 13
Instagram,
ans.
Mais un peu plus tard, on va attendre. Parce que...
Moi, j'ai un fils qui est sur WhatsApp avec un groupe de sa classe, par exemple, il a 12 ans. Et je ne sais pas ce qui s'y dit sur ce groupe WhatsApp. Et je sais qu'il y a pu avoir des dérives parfois.
Alors, les groupes WhatsApp, effectivement, c'est un réseau social et qui est effectivement très, très utilisé dans les classes. Et là encore, c'est bien que de temps en temps, les parents jettent un œil sur ce qui se passe sur le groupe WhatsApp, parce qu'il peut y avoir des dérapages, et notamment du harcèlement, qui est la plaie quand même contemporaine, là, des rapports entre adolescents. Et donc, ces messages qui sont diffusés à tous peuvent être parfois très agressifs et blesser profondément.
Justement, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux plus que d'autres dont il faut se méfier? Il y a Facebook, mais les jeunes n'y vont pas vraiment. Il y a TikTok.
Non, ça, c'est que nous, Julia.
Voilà, c'est des vieux.
Snap.
Est-ce qu'il y en a qui sont assez
Snap.
Dangereux?
Et je pense qu'Instagram, qui est complètement, complètement basé sur l'image, a beaucoup, il me semble, et je crois même qu'ils le reconnaissent, et qu'il y a une étude qui a été faite dont j'ai oublié le nom, mais ils reconnaissent que les adolescentes sont fragilisées et ont un souci plus fort de leur image, et que Instagram a renforcé ça. Parce que, évidemment, qu'est-ce qu'elles font sur Instagram? Elles postent des photos d'elles et elles attendent des commentaires. Or, les commentaires, ils viennent ou ils viennent pas, et puis surtout, ils sont plus ou moins sympathiques.
Et ils se sentent bien s'il y a beaucoup de likes, quoi.
Beaucoup de commentaires, t'es magnifique.
Et puis il y a des filtres sur les photos. Comment on les éduque à ça? Parce que, bon, admettons, elle aura 13 ans, elle aura un compte Instagram. Comment on la prépare à ça?
Il faut leur montrer que justement, c'est pas la vraie vie, que Instagram est fait pour montrer une espèce d'univers idéal où tout le monde serait tellement beau, tellement content, tellement riche, etc. etc. Sauf que dans la vraie vie, évidemment, c'est pas ça. Et donc, c'est aux parents, aux adultes, d'éduquer ces filles et de leur montrer que c'est un peu du faux, c'est de la triche.
Clément ? Sauf que le problème, j'ai l'impression, c'est que les adultes sont tout aussi pour les,
quand les parents
fans
font
des
la
réseaux
même chose,
vont avoir
ouais.
la même chose. Et là, le problème, c'est même pas l'adolescence, c'est vraiment l'image qu'on voit sur les réseaux.
Vous avez raison, mais peut-être que les adultes ont quand même un tout petit peu plus de recul et savent de quoi ils retournent, alors que les adolescentes, surtout quand elles sont très jeunes, elles sont happées par ça, et je pense pas qu'elles ont forcément la réflexion qui va avec.
Bien sûr, et notamment sur la comparaison, parce qu'on voit des corps magnifiques, alors avec souvent des filtres, effectivement, mais j'imagine que dans la construction d'une adolescente, qu'elle quel que soit son âge, mais 10, 11, 12, 13 ans, c'est très difficile cette comparaison. Comment lui faire comprendre que ses corps ne sont pas des vrais et que la réalité est ailleurs ?
Eh ben justement, il faut beaucoup en discuter, beaucoup en parler, et puis aussi valoriser autre chose que l'image et montrer qu'on n'est pas juste une jolie tête, une jolie paire de fesses, etc. Et qu'il y a autre chose, voilà, et que le jugement et que le jugement ne doit pas être exclusivement un jugement sur l'image.
Bien sûr.
La question est peut-être compliquée. Je ne sais pas si la réponse existe vraiment, mais vous pensez que les adolescents et adolescentes aujourd'hui sont plus méchants entre eux qu'à l'époque, ou c'est juste démultiplié avec les réseaux?
On a toujours été un peu méchants.
Je pense qu'il y a toujours
eu
des méchancetés. Dans la cour de récréation, on n'était pas tendre, et moi j'en ai des souvenirs d'avoir été assez pestouille avec les unes et les autres. Mais je pense quand même que le fait de communiquer via un réseau social enlève une barrière. Et par exemple, la bonne idée, c'est de faire réfléchir. Est-ce que si elle était en face de moi, je lui dirais la même chose? Et très souvent, la réponse est non. Et ben, quand la réponse est non, il ne faut pas le poster, il ne faut pas l'écrire.
Bien sûr, c'est les haters.
Béatrice, comment réagir si on découvre que notre fille, par exemple, elle a posté, j'en sais rien, une photo de seins nus, enfin, on va à l'extrême, hein. C'est possible parce qu'un garçon l'a poussé à le faire, ou parce qu'elle a eu envie de le faire, pour faire comme la copine, mais qu'elle le regrette, enfin bref, ou qu'on le découvre par hasard, comment on réagit? On coupe tous les réseaux sociaux, on punit, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour nos
parents? Non, moi je pense que la punition, ce n'est pas la bonne idée, mais c'est la discussion, c'est le dialogue, et puis à ce moment-là, c'est la rassurer, parce que en général, quand ça arrive, et j'en ai vu malheureusement beaucoup, elles sont tout à fait désolées et effondrées et humiliées de voir que leur image a été utilisée alors que naïvement, elles pensaient qu'elle ne le serait pas et que ça serait adressé uniquement à leur petit copain, par exemple.
Comment on les aide à réparer ça, d'ailleurs ?
En parlant avec elles, en leur faisant exprimer leurs émotions, et puis en leur montrant qu'effectivement, il faut vraiment réfléchir avant de poster tout ça.
D'autant plus, je crois qu'elles sont très exposées, comme les garçons, hein, aux images porno. Justement, l'âge du rapport sexuel et cette libération des images sexuelles, est-ce que ça, elles font l'amour plus jeune ou c'est comme avant ?
Non, elles font pas l'amour plus jeune, mais elles font pas l'amour plus jeune, mais elles font ce qu'elles appellent les préliminaires. Et les préliminaires, c'est-à-dire tout ce que vous voulez,
sauf la pénétration.
Mais des choses très intimes malgré
des
tout.
Des choses extrêmement intimes, mais à partir du moment où il y a pas la pénétration, elles ont l'impression qu'elles ne l'ont pas fait, entre guillemets, comme elles disent, que ça compte pas.
Ça veut dire que quoi,
c'est quand même partager une intimité énorme.
La fellation et le nouveau baiser ?
Ah ben la fellation, c'est pour elles, oui, l'équivalent du baiser il y a quelques années. Hein.
C'est comment on leur explique que c'est pas le cas justement ? Parce que c'est pas.
Mais je crois qu'il faut que les parents n'aient pas peur de parler de sexualité. Mmh. Ça veut pas dire parler de sa sexualité, mais de d'échanger avec elles sur justement un discours qui est parfois extrêmement banalisant et normatif, et parler tranquillement des valeurs qu'on a et de ce qu'on pense de tout ça.
Béatrice Coparoyer, comment on sait, justement, parce qu'on parle des réseaux sociaux, c'est notre sujet aujourd'hui, qu'éventuellement notre fille est victime de cyberharcèlement? C'est quoi les signes qui doivent donner l'alerte?
Alors les signes qui doivent donner l'alerte, c'est pas mal le repli, le changement de comportement, la tristesse, vraiment le repli. Et il faut évidemment à ce moment-là évoquer des hypothèses, parce que le questionnement direct il n'y a pas de réponse. Hein, si vous dites qu'est-ce qui se passe, raconte-moi ce qui se passe, etc., il n'y aura pas de réponse. Mais faire des hypothèses. Est-ce qu'en ce moment, peut-être, aller au collège, quelqu'un t'embêterait, etc. Donc lancer un peu
une perche
pour qu'elle soit saisie.
Et puis si vous vous rendez compte justement que votre enfant ou même l'enfant d'une amie est victime de cyberharcèlement, je vous rappelle le numéro national qui est le 3018.
Le 3018, très important.
Très important, évidemment.
Très Béatrice Coparoyer, on va rester encore un peu ensemble, on a d'autres questions pour vous et nos auditeurs aussi. On va leur répondre dans quelques minutes. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est le moment, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, sur le hashtag Europe 1, ou encore sur le 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1, Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours en train de résoudre ce problème ce matin. Comment accompagner, mieux accompagner nos adolescentes à l'ère des réseaux sociaux? Pour en parler, nous sommes toujours avec la psychologue Béatrice Copper-Royer, co-autrice du livre Adolescente sur le fil aux éditions Marabout. Alors l'adolescence, c'est aussi l'âge, Béatrice, où on commence à sortir avec ses amis. Moi, je me demandais à quel âge on peut autoriser justement, par exemple, les soirées sans adultes pour surveiller. Est-ce qu'on peut leur faire confiance et comment savoir si on... Parce que tous les ados sont pas les mêmes. Hein. Est-ce qu'on peut comment savoir si je peux faire confiance à mon ado?
Je pense qu'il faut quand même qu'avant 16 ans, par exemple, il faut qu'il y ait un adulte dans les parages. Parce que c'est très désolant aussi pour quelqu'un, un adolescent, par exemple, de 14-15 ans qui fait une fête, que ça dégénère et que d'être dépassé par les événements. Or, malheureusement, ils boivent quand même pas mal. Même si les parents disent pas d'alcool, il y en a toujours qui en amènent, qui en apportent. Et donc, il y a quand même parfois des dérapages. Et donc, c'est important qu'il y ait un adulte dans les parages qui prenne les choses en main s'il y a un souci. Il ne s'agit pas d'être au milieu d'eux, simplement d'être
dans
pas loin.
Dans une pièce
quoi.
À part, voilà. Ou pas très loin.
Ou chez le voisin en face.
Exactement.
Bon, j'espère que mon fils vous écoute. Hein. Je lui refuse beaucoup de fêtes en ce moment. Myriam nous dit au 39-21 qu'elle n'apprécie pas du tout la nouvelle meilleure amie de sa fille. Elle pense que c'est une mauvaise fréquentation. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle lui interdit de la voir parce que les deux jeunes filles sont quand même dans la même classe.
Alors ça, c'est une question très intéressante parce que je pense que le jugement lapidaire et un jugement de valeur définitif va produire l'effet contraire, c'est-à-dire un intérêt démesuré et un attachement plus fort. Donc je pense simplement que peut-être inviter un peu cette jeune fille chez elle, parce que parfois c'est en voyant l'ami se comporter en famille que l'adolescente se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Donc il faut être assez prudent, faire peut-être de temps en temps des petites remarques sur... Pas sur la personne en elle-même, mais sur tel ou tel comportement.
Et puis attendre dire que... j'ai été étonnée de voir que ton ami machin a fait ça.
Voilà, exactement. Je suis surprise que, par exemple, qu'elle dise jamais bonjour. Ouais. Dommage.
C'est ça. Je dis gentiment, mais le message est clair en
mais
même
bonjour,
temps.
Bonjour, elle connaît pas. Voilà, c'est plus ça.
Alors, il y a également Romain sur Instagram qui dit « Ma fille est fan de TikTok, elle s'en inspire beaucoup pour ses tenues qui sont parfois vraiment très sexy, elle n'a que 14 ans. Puis-je lui interdire certains vêtements ou alors carrément lui bloquer l'accès à TikTok? Elle a 14 ans.
» Alors, certainement pas bloquer l'accès à TikTok, parce que je pense que ça fait partie de leur amusement.
Vous n'êtes pas contre, hein,
Non, je ne suis pas contre, c'est pour ça. Je pense qu'il ne faut absolument pas diaboliser, mais je pense qu'il faut éduquer. Et sur les tenues, on peut dire, ça c'est une tenue qui va pour telle ou telle occasion.
C'est-à-dire quand tu es enfermé dans ta chambre, c'est très bien.
Non, mais pas pour tout. Donc on peut en discuter et créer un peu de réflexion. Je pense qu'il faut mettre de la réflexion là où il en manque très très souvent, et on ne va pas au collège habillé forcément comme, alors je vais me faire engueuler par toutes les féministes, mais oui, on peut dire à des filles qu'elle est au collège avec un top machin là,
un crop top,
c'est pas forcément la bonne idée et qu'on peut le réserver pour une fête avec des copains.
Dans la chambre enfermée encore une fois. Ma fille n'a que 4 ans, je me prépare.
C'est tout à fait ça, mais c'est vrai, en plus je rajouterais que sur TikTok, même si on empêchait nos adolescents ou nos adolescentes d'y aller, de toute façon, ils peuvent créer des faux profils.
C'est évident.
Donc, il faut éduquer, effectivement. Alors, une question d'Olivier sur Instagram. Depuis l'été dernier, ma fille de 13 ans ne m'adresse presque plus la parole et prend la mouche pour un rien. Est-ce que c'est un passage obligé de ne plus s'entendre avec ses parents? Et si oui, ça dure combien de temps?
Alors, y a un remaniement psychique qui est lié au phénomène pubertaire. Il ne faut pas en prendre ombrage, c'est tout à fait normal. L'adolescent cherche à réaménager les liens aux parents, ce qui va d'ailleurs souvent avec des angoisses. Et il y a une grande ambivalence entre se séparer et pas être abandonné. Donc la question est complexe. Et les filles vis-à-vis de leur père, notamment, qui ont pu être très attachées à leur père, très adulées, chouchoutées, etc., ont une espèce de nécessité impérieuse de faire un pas de côté par rapport à lui. Donc il ne faut surtout pas vouloir conserver un lien trop infantile et admettre qu'on peut être plus dans la discussion que dans
l'adoration.
Voilà, exactement, et dans les grands câlins.
qu'elle redoute.
Béatrice, aujourd'hui, on a parlé essentiellement et quasiment uniquement des adolescentes, mais est-ce que justement, pour les protéger, ces adolescentes sur le fil des réseaux sociaux, est-ce que ça passe pas quand même? Et ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, mais par l'éducation des garçons aussi.
Mais évidemment, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour que son fils ne devienne pas justement un gamin qui va peut-être harceler ou demander lui, parce que pour rigoler, il va te faire une vidéo avec une fille
en discuter, vraiment, je pense que le dialogue pendant l'enfant, enfin pendant la grande enfance justement, et c'est pour ça que je trouve dommage que cette...
Entre 7 et 11 ans,
oui,
quoi, c'est ça. Hein.
C'est vraiment un moment où on peut faire passer beaucoup, beaucoup de messages. On est entendu, compris. Il ne faut pas hésiter. Et puis ensuite, effectivement, autour des réseaux sociaux, continuer à être dans une éducation incontournable et indispensable.
Alors, je rappelle juste avant la fin de ce dossier, le numéro national concernant le cyberharcèlement, c'est un numéro gratuit. Et si vous êtes concerné, vous connaissez quelqu'un qui est concerné, c'est le 3018, Mélanie.
Très bien, merci beaucoup Béatrice Copper-Royer pour cet éclairage passionnant sur ce sujet qui peut inquiéter effectivement nombre de parents. Merci également d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. On a appris beaucoup de choses grâce
merci.
À vous.
Oui, merci à vous, merci. À bientôt. Maintenant, Mélanie, on va changer de thématique et tenter de mieux comprendre une maladie encore mystérieuse hein, quand on n'est pas touché. C'est le psoriasis. Alors de quoi s'agit-il et surtout comment en venir à bout? Car oui, c'est possible. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
On va donc s'intéresser à présent à cette maladie de peau qui peut être très invalidante pour ceux et celles qui en souffrent, le psoriasis. Alors pour nous éclairer sur le sujet, vous êtes avec nous en studio, professeur Émilie Sbidian, bonjour.
Bonjour, ravie d'être parmi vous pour parler de psoriasis.
Très bien, vous êtes donc dermatologue à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Alors justement, on va définir un peu ce que c'est vraiment cette maladie finalement, parce qu'on a en tête que c'est une maladie de peau, mais je crois que c'est pas seulement ça, il peut y avoir d'autres manifestations. C'est quoi le psoriasis alors?
Alors le psoriasis, on pourrait le définir comme une maladie chronique inflammatoire qui touche principalement la peau. Alors si on essaye de préciser les termes, chronique, ça veut dire que les patients vont être touchés pendant plusieurs années, pendant plusieurs dizaines d'années. Inflammatoire, c'est donc une présence d'inflammation qui est liée à un trop grand renouvellement de la peau qui se fait en 3-4 jours, alors que pour un sujet lambda, ça va être 3 semaines. Mmh. Donc, ce qui va expliquer la rougeur, les plaques, l'épaisseur, c'est toute cette peau supplémentaire qui est fabriquée. Et en effet, comme vous venez de le dire, il y a d'autres atteintes associées à ce psoriasis, principalement des atteintes articulaires. Mmh. On parle de rhumatisme psoriasique. Et ça peut se manifester sous différentes formes. Soit des atteintes de la colonne, des douleurs lombaires, des douleurs dorsales.
Clément Lanoux.
J'ignorais, oui. Donc j'ai une question, ça touche toutes les parties du corps ou... De non, je pensais que c'était surtout le crâne et les cheveux, non, pas du tout.
Non. Alors, la sévérité est différente. Donc, certaines personnes peuvent avoir une atteinte exclusivement du cuir chevelu, mais d'autres peuvent avoir l'ensemble du corps touché et on peut comprendre les difficultés. On était un peu dans l'image de soi, là,
juste avant
et ça rejoint... un impact sur la qualité de vie. Oui.
Mais c'est une maladie génétique, c'est bien ça ou pas?
Alors, oui, et pas seulement. Ça veut dire qu'il a été identifié des gènes liés au psoriasis. Donc, il y a une prédisposition génétique, puisqu'il y a 30 à 40% des patients qui rapportent une forme familiale.
D'accord.
Mais ce n'est pas suffisant. Il faut des facteurs environnementaux pour déclencher le psoriasis.
L'obésité en est un, je crois, par exemple.
L'obésité en est un, tout à fait. Alors, l'obésité va jouer à plusieurs niveaux. L'obésité, le surpoids, qui passe surtout par la mauvaise alimentation, les boissons trop sucrées.
Trop de gras, trop de sucre.
Exactement.
Ça veut dire, professeur, que c'est un gène qu'on a en nous et parce qu'on s'alimente mal, il peut se déclencher et apparaître. La maladie
à cause de facteurs environnementaux comme le surpoids, oui, ça peut se déclencher à ce moment-là. Quand ce surpoids crée de l'inflammation aussi systémique. Et ce poids, il est aussi à l'origine d'une plus grande sévérité du psoriasis et d'une mauvaise réponse au traitement. Donc il apparaît
à
plusieurs...
Parce que l'obésité, le surpoids, le gras qu'on a forcément sous la peau, tout ça c'est de l'inflammation, c'est ça, on est d'accord, la graisse rend le corps inflammatoire en fait.
Exactement, et donc c'est associé au psoriasis, mais c'est associé à d'autres maladies inflammatoires également.
Qu'est-ce qui déclenche en général la première crise de psoriasis? Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens dont j'ai entendu parler qui ont eu une première crise parce qu'un stress, un deuil, un accident, il y a vraiment un lien avec le stress dans le déclenchement de la maladie.
Des chocs émotionnels, tout à fait, mais pas que. Le surpoids, le tabac, des infections, des infections virales, les virus peuvent aussi déclencher les premières poussées de
psoriasis. Mais c'est prouvé le lien avec le stress, vraiment, dans l'apparition de la maladie?
Oui, et c'est pas c'est pas spécifique du psoriasis. En général, y a le stress, des chocs émotionnels peuvent déclencher des maladies chroniques.
Évidemment. Alors, cette maladie, elle ressemble à quoi pour eux ? Parce que je ne sais pas, moi, si j'ai eu du psoriasis, comment je peux
vous
savoir ?
Vous le sauriez, je pense, non ?
On le sait quand
oui,
on...
Oui, oui, c'est des plaques qui sont des plaques extrêmement bien limitées, qui sont rouges et avec beaucoup, enfin, une épaisseur importante, qui sont les squames. Des squames qui vont, qui peuvent être perdus un petit peu partout là, dans, à la maison, sur le lieu de travail. Ouais, on perd sa peau sur le lieu de travail. Ça peut être vraiment très handicapant, très invalidant pour les personnes atteintes.
Ça gratte ou pas ?
Ça gratte. 50% des patients se grattent. Ça peut être douloureux quand c'est mal placé au niveau des articulations, par exemple, quand ça limite les mouvements.
Bah oui. Dans le cou, dans le creux du coude, c'est ça ?
Alors ça,
non,
c'est plus l'eczéma. Ah, là, ça l'eczéma va être plus le derrière, coude. Alors, c'est sur des zones de frottement. Ouais.
Très bonne question de Mélanie Gomez. Bah,
aussi, Julia Vignali.
Mais comment on fait la différence entre l'eczéma et le psoriasis ?
Sur la forme de la lésion, puisqu'elle est bien limitée et elle est sur des zones de frottement, donc les coudes, les genoux, le cuir chevelu, vous en parliez, l'ombilic au niveau du sacrum, le nombril pour l'ombilic. Et l'eczéma, c'est des plaques qui sont beaucoup moins bien limitées, beaucoup plus fines, plus discrètes et qui, elles, vont toucher les plis de flexion.
Mais c'est très fréquent, le psoriasis, dans la population par rapport à l'eczéma, par exemple.
Oui, il y avait une étude de la Société française de dermato, Objectif Peau, il y a quelques années, qui avait regardé les prévalences, la proportion de gens atteints de maladies de peau. Et le psoriasis, c'était 4 à 5% de la population française.
Ah oui, c'est pas mal, quand
avec
même.
Avec une sévérité qui est différente. Hein. Il peut y avoir des gens qui ont quelques plaques du cuir chevelu et d'autres qui sont vraiment atteints et qui nécessitent une prise en charge spécialisée.
D'autant que vous dites, bon, bien sûr, il y a des degrés de sévérité de la maladie, mais c'est une maladie qui évolue par poussée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes un peu plus calmes, des périodes où ça s'aggrave, où ça va s'étendre partout sur le corps, c'est ça, hein ?
Alors, pour la plupart des gens, oui, dans les formes les plus modérées. En effet, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Et puis, pour les formes les plus sévères, c'est en continu. On a ces plaques en permanence.
Tout le temps, là, là. Ouais. Bon, c'est pas gai, on va essayer de passer justement aux choses positives. Ne bougez pas, professeur Sbidian, on va passer au traitement. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette maladie chronique, il y en a beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, on devrait pouvoir trouver une solution quasiment pour mettre au moins en sommeil la maladie pour tous les patients. Et toutes ces bonnes nouvelles, c'est évidemment sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin aussi de votre santé et de celle de vos proches, surtout s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est concerné par la pathologie qui nous intéresse ce matin. On parle du psoriasis et surtout de ses traitements. On va faire le point avec le professeur Émilie Sbidian, dermatologue à l'hôpital Henri Mondeur de Créteil. Alors avant de passer au traitement, quelque chose dont on n'a pas encore parlé, est-ce que le psoriasis démarre forcément à l'enfance ?
Non. Le psoriasis, c'est une maladie de l'adulte. Il y a deux pics à 40-50 ans et à 60 ans. Alors, il y a des cas pédiatriques, mais c'est vraiment pas fréquent.
Ah, c'est dingue.
Et tant mieux.
Oui, tant mieux. Et pourquoi 40-50 et 60 ? Pourquoi si tard ? On sait ça ?
C'est très variable selon les pathologies inflammatoires.
Ce sont des pics de fréquence.
Oui,
quoi,
on
peut sortir
pourquoi
aussi des pics, quoi, parfois, malheureusement. Mmh. C'est ça. Alors, on va passer justement au traitement de cette maladie. Bien sûr, tout dépend de la gravité. On a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs stades. Mais pour quasi tous les patients, ça démarre toujours en première intention par des crèmes. Hein, je crois des crèmes à base de corticoïdes, notamment, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, c'est pas que ça démarre. Tout le monde en aura. Ouais, tous les patients qui ont un psoriasis en auront. Mais par contre, ça peut démarrer, si c'est vraiment sévère, directement par un traitement systémique. Et pour ces crèmes, il y a deux types de crèmes que sont les dermocorticoïdes, donc des crèmes à base de cortisone qu'il faut savoir bien appliquer, ne pas hésiter de...
Bien tartiner.
Voilà, bien tartiner.
Parce que les gens ont peur de la cortisone.
Ont toujours peur de la cortisone et finalement, on ne met pas assez, ne vont pas mieux, ça traîne.
C'est pour ça que ça
et ils
ne
sont pas
souvent,
soulagés.
Ouais.
Voilà, donc il faut traiter fort, mais moins longtemps.
Il y a moins de risques avec la cortisone sous cette forme, on est d'accord. Il n'y a pas d'effet secondaire particulier.
Il y a des effets secondaires quand même, parce qu'il y a un passage systémique, il y a un passage dans le corps, mais moindre que la corticothérapie par comprimé.
Donc on est généreux sur la cortisone.
On est généreux sur la crème si on veut que ça marche.
D'accord. Mais pour le cuir chevelu, on va se mettre de la cortisone dans les cheveux ?
Oui, c'est possible.
Ah
ça,
bon,
sous forme de lotion, il y a différentes
des
formes. En fait, on
en
parle
fait,
de galéniques. Oui, c'est des shampoings, des lotions, il y a des pommades, enfin, il y a des mousses. Il y a vraiment beaucoup de présentations différentes de ces traitements topiques. D'accord. Et le deuxième traitement topique, c'est un dérivé de la vitamine D. C'est ce qu'on fabrique naturellement quand on s'expose au soleil. Et donc ça, c'est apporté puisqu'on sait que le psoriasis s'est amélioré au soleil. Mm-hmm. Et donc cette vitamine D, elle existe aussi en pommade ou en crème. Et elle permet d'améliorer nettement les plaques de psoriasis.
Alors, une question pour vous d'une auditrice ou un auditeur, Christa Esther, qui parle de son papa qui a eu du psoriasis, de nombreuses années, des plaques sur les coudes. Aucune crème, aucune application quelconque n'y a fait quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'il a eu sa chimio pour son cancer du côlon, plus aucune croûte de psoriasis. Psoriasis qui est revenu quand la chimio était terminée. Savez-vous pourquoi ?
Alors, il y a deux choses qui sont à souligner. Les traitements par crème, c'est des traitements suspensifs. Ça ne guérit pas le psoriasis. Donc, quand on les applique, ça améliore. Quand on arrête, ça revient. C'est pour ça que ça n'a jamais permis de guérir son papa. Bien sûr. Ça, c'est la première réponse. Par rapport à la chimiothérapie, le psoriasis, c'est une maladie avec des troubles de l'immunité. Trop de synthèse de protéines de l'inflammation qui explique pourquoi c'est rouge sur la peau. Et donc quand on a une chimiothérapie, je ne sais pas quel type de chimio a eu son papa, il y a aussi un dérèglement de l'immunité et donc ce qui peut mettre en repos certaines maladies inflammatoires comme le psoriasis.
Mmh. En tout cas, on ne va pas mettre tout le monde sous chimio.
Voilà, après la fin de la chimio, son immunité est revenue à celle qu'elle était auparavant et donc ces lésions de psoriasis sont réapparues.
Je voudrais, professeur, qu'on revienne à cette idée du soleil. Donc ça veut dire que si je me mets au soleil et que j'ai du psoriasis, j'en aurai moins.
Oui, alors mais le soleil, c'est dangereux.
Le soleil en même temps, c'est dangereux. Donc, comment je fais s'il n'y a pas de soleil? Je vais faire des séances d'UV, par exemple?
Alors, la photothérapie, quand elle est faite chez le dermatologue dans des cabines d'UV, est un traitement du psoriasis.
Ah bon?
C'est assez contraignant pour des personnes qui sont en activité professionnelle parce qu'il faut faire 2 à 3 séances par semaine. C'est des séances qui sont courtes, qui durent 2, 3, 4 minutes. Mais il faut se déplacer chez le dermato. Et donc, c'est ce qui limite l'utilisation de ce traitement qui est pourtant très efficace dans le psoriasis.
Mais on ne va pas dans les centres de bronzage.
Non, on ne va pas dans les centres de bronzage. Non.
D'accord.
Non,
il n'y a pas de très mauvais risque de cancer de la peau avec ces traitements-là, comme avec les cabines de bronzage.
Alors, c'est des traitements qui sont surveillés. On regarde le nombre de joules, on examine les patients. Et si on a un doute, évidemment, on biopsie la lésion suspecte et on arrête le traitement. Le risque nul, il n'existe pas en médecine. Mais en tous les cas, c'est surveillé par rapport aux cabines UV.
Alors, ensuite, vous avez dit, donc les crèmes, tout ça, ça va être un traitement, mais ce n'est pas le traitement qui va guérir le psoriasis, en tout cas le mettre en repos. Donc ensuite, il y a des traitements qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire les médicaments qu'on va avaler par la bouche, notamment. Il y en a un qui est assez connu, ça s'appelle le méthotrexate. Expliquez-nous ce que c'est et comment il agit.
Alors, ces traitements systémiques, ils ne guérissent pas non plus le psoriasis. C'est pareil, quand on les arrête, souvent, on revient à l'état de base. Mais pour les formes les plus sévères, les crèmes ne sont pas assez efficaces. Et donc, on prescrit des traitements comme le méthotrexate. Le méthotrexate, ça s'appelle un antimétabolique, ça diminue le renouvellement des cellules. Et donc, c'est vraiment ce qu'on veut pour le psoriasis, ça désépaissit les plaques. C'est un médicament qui se prescrit une fois par semaine, qui se prend par comprimé ou par piqûre, il existe aussi par piqûre, et qui nécessite, avant la mise sous ce traitement, de vérifier un certain nombre de choses. Il faut avoir le rein qui fonctionne bien, il faut avoir le foie qui fonctionne bien, et quand on a vérifié tout ça, le traitement se passe bien. Par contre, ça n'agit pas tout de suite. Il faut attendre 3-4 mois pour que ça agisse.
Mais ça vaut le coup, puisque après
on est soulagé pendant plusieurs mois, plusieurs années.
Mais ça veut dire qu'on va prendre ça toute sa vie ou on peut quand même à un moment donné arrêter?
Alors, c'est difficile de savoir quand arrêter. Quand on n'a plus du tout de plaques, on va commencer par diminuer le traitement, voir ce qui se passe. Si il ne se passe rien, on va finir par arrêter en prévenant les patients que ça peut recommencer au bout de 3-4 mois d'arrêt, quand le médicament sera totalement éliminé du corps. Et dans ce cas-là, qu'on se reverra si on a besoin de reprendre le traitement. Alors on ne peut pas savoir.
Les crèmes, ça ne guérit pas. Le méthotrexate, ça ne guérit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui guérit? On peut guérir définitivement d'un psoriasis?
On ne guérit pas d'une maladie chronique inflammatoire. C'est comme on ne guérit pas du diabète, on ne guérit pas de l'hypertension, on a des médicaments qui permettent d'aider à mettre en sommeil les maladies. À un moment, quand même, dans la vie, ça va s'arrêter sans qu'on sache pourquoi. On ne sait pas bien pourquoi c'est venu, on ne sait pas bien pourquoi
ça
s'arrête.
Des années de répit, c'est possible, quoi.
Alors, des années de répit au milieu, c'est possible, mais également, à un moment, ça va s'arrêter. Mais ça, on ne sait pas quand. Et donc, en attendant, on a ces traitements.
D'accord, je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle la cyclosporine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça fonctionne bien?
Alors la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur, donc lui, il faut encore faire attention à des choses supplémentaires par rapport au méthotrexate, ne pas avoir d'infection, ne pas avoir de cancer, plein de choses à vérifier. C'est un traitement qui est aussi efficace que le méthotrexate, qui agit beaucoup plus vite en quelques semaines et qui est autorisé chez la femme enceinte, contrairement au méthotrexate. Donc c'est un médicament qu'on aime bien prescrire avant 50 ans, puisque après, souvent, on a des maladies associées cardiovasculaires qui limitent l'utilisation de ce
traitement.
Mais
bon résultat aussi, quand ça fonctionne bien en général.
Et vite.
Ouais. Et vite, voilà, plus vite que l'autre, d'accord,
plus vite que l'autre.
Pour lequel il faut attendre plusieurs mois. Ensuite, il y a un dernier traitement qui est possible. Alors là, ce sont les biomédicaments. Ils sont arrivés il y a une quinzaine d'années, je crois, et ça a été vraiment une petite révolution. Ce sont des injections, n'est-ce pas, et tous les combien?
Alors, une grande révolution, puisque maintenant...
Moi, j'ai dit une petite, mais grande.
Vraiment une grande révolution, puisque pour les formes très sévères, quand on commence ces médicaments, il y a à peu près 80% des patients, 85% des patients qui voient disparaître la quasi-totalité de leur psoriasis.
Ah bah pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde, alors?
Alors, pourquoi on ne donne pas ça à tout le monde? Parce que c'est des médicaments récents et donc dont on ne connaissait pas les effets secondaires. Donc on était prudent, on commençait par ceux qu'on connaissait. Et puis en cas d'échec, pour les patients les plus graves, on avait ces biomédicaments.
Comment ils agissent, ouais?
Alors, ce sont des anticorps qui vont aller cibler les protéines de l'inflammation. Ces protéines qu'on a réussi à décortiquer, en fait, ça va cibler, et c'est de plus en plus précis au fur et à mesure des années. Il y a une dizaine de molécules là qui sont commercialisées et qui sont de plus en plus efficaces dans le psoriasis. C'est pas vrai dans le rhumatisme psoriasique, par exemple.
On les prend comment?
En piqûre. Et alors, selon les traitements, ça peut être une piqûre toutes les semaines, ça peut être une piqûre toutes les 15 jours ou une piqûre toutes les 12 semaines, tous les 3 mois. Donc ça, c'est très appréciable pour les patients. Ces traitements ont un coût important.
Je me doutais qu'il y avait quelque part le revers de la médaille.
Un coût vraiment important. Ouais. Hein, on est entre 8 000 et 12 000 euros par patient et par an.
Ouais. Mais si c'est énorme.
C'est énorme.
Mais c'est pour ça que les gens ne peuvent pas s'offrir ce traitement.
Non, c'est la sécurité sociale, l'assurance maladie qui offre le traitement aux gens qui le nécessitent.
Mais c'est encore très encadré pour choisir qui va en bénéficier et qui ne va pas en bénéficier. C'est ça, vous le donnez pas en première intention à quelqu'un qui vient pour une première crise
de psoriasis? On ne le donne pas en première intention à cause de ces deux points. Le premier, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien les effets secondaires. 15 ans, ça met du temps parce que ça peut être des effets secondaires rares. Alors, on les a mieux identifiés, mais voilà, les autres traitements sont quand même efficaces. Mm-hmm. Et puis, il y a
rares mais graves, les effets secondaires dont vous parlez
Ils peuvent être graves avec des événements infectieux. Hein. On a plus de risques de s'infecter que si on ne prenait pas ces traitements. Il y a d'autres choses qu'on peut surveiller aussi.
Mais dites-moi, professeur, est-ce que le prix va finir par baisser de ces nouveaux médicaments ou...
Alors, ça a commencé avec ce qu'on appelle les biosimilaires. Ça va être le générique du biomédicament et ça, c'est disponible pour les tout premiers que sont les anti-TNF. Ils sont disponibles maintenant depuis 3-4 ans. Mm-hmm. Ça a fait diminuer le prix de 30%.
C'est
déjà pas mal, mais ça reste...
Ça reste très, très, très cher. Eh bien, merci, professeur Sbignan, d'avoir accepté notre invitation. Grâce à vous, on en sait plus maintenant sur le psoriasis. Et on a compris, surtout qu'aujourd'hui, on a de nombreuses solutions pour en finir avec cette pathologie, en tout cas pour la mettre au moins en sommeil pour un maximum de malades. Merci encore à vous. Merci, professeur.
Merci.
On aime vraiment les bonnes nouvelles dans cette émission. Allez, Julia, il est temps de passer à la partie tendance de Bienfait pour vous avec nos trois chroniqueuses. D'abord, pour la gastronomie. On va écouter religieusement Margot Grossman ce midi qui va nous faire découvrir la cuisine ayurvédique et puis ce sera au tour de Soizic Belin qui va nous aider à comprendre la folie des cartes Pokémon qui sont encore dans toutes les cours de récré et même au collège, oui. Et enfin notre experte beauté Maud Ravier nous donnera tous ses meilleurs conseils pour avoir des yeux de biche, notamment grâce aux extensions de cils. À tout de suite sur Europe 1. Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Voici donc le programme d'Europe Midi. Je vais vous parler des dernières pistes sur la table pour aider les Français à faire face à l'augmentation du prix de l'essence. Baisse des taxes ou création du chèque carburant, les deux solutions ne coûtent pas le même prix. Ça devrait être annoncé dans les prochaines heures. Les dernières informations avec Maud Descamps et Jacques Serret en direct de l'Élysée. On sera également avec Pierre Chasseret de l'association 40 millions d'automobilistes qui nous donnera notamment quelques petits trucs pour réduire notre consommation d'essence. Karim Benzema a-t-il participé au chantage fait à Mathieu Valbuena? La justice va le dire. La star du Real et de notre équipe nationale est accusée d'avoir fait pression sur Mathieu Valbuena pour qu'il paye des maîtres chanteurs. C'est évidemment l'affaire de la sextape. Le procès débute aujourd'hui à Versailles. On sera avec Gladys Laffitte au tribunal de Versailles et avec l'un des plus grands spécialistes de cette affaire. François Hollande tire dans tous les sens. Dans son livre Affronter, qui sort aujourd'hui, tous les politiques en prennent pour leur grade. Est-ce que c'est du niveau d'un ancien président de la République? On en parlera dans Europe Midi. La SNCF monte en gamme avec des billets Paris-Lyon à 142 euros. En business première, pour ce prix-là, vous aurez droit à des boissons, à de la presse et surtout à de la flexibilité. Aurélien Fleureau nous en parlera. Il a pris cette business première. Et puis les Parisiens peuvent dire merci à Messi et à Mbappé. Le PSG s'est fait peur hier soir, mais mais il a réussi finalement à battre Leipzig 3-2. Tiens, au fait, est-ce que les Parisiens sont encore favoris en Ligue des Champions? Je poserai la question à Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Voilà le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure, 12h30.
Merci beaucoup Romain, à tout à l'heure.
Retour dans Bienfait pour vous avec Cyclamed qui collecte en pharmacie vos médicaments non utilisés ou périmés. Europe 1,
11h30,
Bienfait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Bien-être avec Julia Vignali et moi-même. On vous partage tous les jours nos bons plans, nos chroniqueurs et chroniqueuses aussi en font de même, rien que pour vous faire du bien. C'est notre mantra chaque jour. Alors on va se faire du bien pour commencer dans l'assiette avec vous Margot Grossman. Alors là, moi je m'y connais un peu en cuisine, mais celle dont vous allez nous parler... Franchement, ça sera une découverte. On va parler de cuisine ayurvédique. Je le dis bien déjà, je ne sais même pas.
Très bien,
ça
ayurvédique, c'est parfait. Super.
Et c'est quoi
parfait.
La cuisine ayurvédique alors?
C'est une cuisine qui va être pleine de couleurs et de saveurs et qui va nous faire du bien tout en nous rééquilibrant de l'intérieur.
C'est tout ce qu'on aime.
C'est exactement ce qu'on voulait. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous, Margot. Ensuite, ce sera à vous de jouer, Soizic Belin. Et je dis jouer parce que ça tombe bien, parce qu'on va parler d'un jeu, d'un loisir adoré des enfants, n'est-ce pas?
Et pas que.
Attendez, mais c'est pas fini les Pokémon, sérieux?
Non. Et puis je ne sais pas si vous avez vu passer cette info, mais le trio de jeunes qui propose de customiser votre passe sanitaire avec des icônes de pop culture. Et dans leur proposition, vous avez la carte Pokémon avec le QR code aujourd'hui. Je vous parlerai donc des Pokémon.
Avec plaisir.
Super. Et on terminera cette séquence tendance avec les conseils beauté de notre experte. C'est vous, Maud Ravier. Des conseils pour nos beaux yeux, hein, c'est ça aujourd'hui,
pour le regard. Les yeux de biche, quoi qu'il arrive.
Bon, génial. Super. Merci, Maud. Ce sera à vous dans quelques minutes. Mais avant de s'attaquer à nos yeux de biche, on va passer nos tabliers et se mettre au fourneau dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
On commence donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de cette émission. C'est vous, Margot Grossman, qui allez ravir nos estomacs avec une cuisine de plats peu connus, mais non moins savoureux. Vous nous parlez de la cuisine ayurvédique. C'est à vous.
Exactement. Je vous emmène à la découverte de ce monde magique qui est celui de la cuisine ayurvédique. Alors, histoire de se mettre dans l'ambiance, on va méditer sur une petite citation d'Hippocrate, le temps de la chronique. Que ton alimentation soit ta seule médecine.
Ah mais oui, c'est pas un couillon, hein, comme on
c'est
dit.
C'est ça.
Non mais excusez-moi, la cuisine, j'arrive pas à dire le mot.
Ayurvédique.
Celle-ci, ça vient d'où?
Alors ça nous vient de l'Ayurveda, qui est une médecine traditionnelle et holistique, qui est née en Inde il y a 5000 ans déjà. En fait, c'est la plus vieille médecine du monde. Ayurveda qui veut dire sens de la vie en sanskrit. Alors du coup, au cœur de cette médecine, en fait, on va retrouver vraiment l'alimentation saine et équilibrée qui va jouer un rôle à la fois préventif et curatif puisqu'elle nous permet la santé, la beauté, l'immunité, la longévité,
après,
la
avec sa chronique, on a tous les bienfaits qu'on recherche.
Hein, finalement, vous avez déjà ça, Mélanie.
Non, j'ai besoin vraiment de conseils. Comment ça marche justement, Margot? Quels sont les grands principes, on va dire, de la cuisine ayurvédique?
Alors la cuisine ayurvédique, c'est vraiment un mix en fait entre la science et la spiritualité et elle va utiliser que des ingrédients naturels à 100%, que ce soit d'ailleurs en médecine via les traitements utilisés ou en cuisine avec les aliments que l'on utilise. Alors d'ailleurs, elle ne s'apparente pas forcément à la cuisine indienne, hein, parce qu'on peut tout à fait cuisiner ayurvédique.
Oui, j'avais ça en tête, moi j'étais persuadée que c'était forcément tout au curry.
Non,
quoi.
Pas besoin de dal et de kichari pour cuisiner ayurvédique. D'ailleurs, on va se le prouver après.
Oui, je sens des petites choses qui arrivent là, dans le studio. Hein. Vous nous avez gâtés, on va voir ça dans un instant.
En fait, tant qu'on ne s'engueule pas à table et qu'on prépare le repas avec amour, et bah, là,
je fais ça
fait,
un peu tous les jours en fait, peut-être, d'une certaine façon.
C'est ce que je vous disais. Ouais. Alors de quoi se compose un repas ayurvédique?
Alors un repas ayurvédique, ça va être essentiellement biologique.
Ça c'est bon.
Toujours de saison. Okay. Et fraîchement préparé. Il ne faut pas réchauffer en ayurvéda.
Franchement, je crois que je cuisine ayurvédique sans savoir.
Hein. C'est très bien. Vous voyez, mais comme quoi, c'est parfait. C'est dans notre inconscient.
On ne réchauffe pas dans cette cuisine-là.
Non, on ne réchauffe pas. On réchauffe pas. En gros, c'est une cuisine qui va être à dominante végétarienne.
Ah oui, non alors.
Ouais. Et qui va se composer essentiellement de céréales, de légumineuses, de plein de fruits et de légumes, mais aussi d'herbes fraîches et surtout d'épices. Ouais. Alors pas seulement pour aromatiser les plats et pour toutes leurs vertus santé, mais aussi pour rendre les nutriments plus facilement assimilables en fait par l'organisme.
C'est un outil en fait, hein, les épices, clairement. Hein. En mettre, c'est pas uniquement pour parce qu'elles vont prendre d'autres aliments pour les transformer et nous en faire bénéficier différemment.
Mais
hein,
oui,
c'est ça,
ce qu'on va voir après. Alors parmi ces épices, dans les traditionnels, on a le gingembre, la cannelle, le curcuma, la cardamome, le cumin.
C'est très bon le curcuma.
C'est excellent.
Notamment pour les, comment on appelle ça, pour pas être trop gonflé.
Les flatulences.
Non, pas les. Je pensais pas. Ça c'est un autre problème.
Et pour les humeurs.
C'est un anti-inflammatoire, il me semble.
C'est l'un des plus puissants qui soit. Ouais.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, vous nous avez préparé une petite recette.
Est-ce que vous saviez que les femmes indiennes ont l'habitude de modifier les épices en fait en fonction des humeurs de la famille ?
C'est pas vrai, c'est génial.
Donc, si jamais votre entourage est un peu trop agité, vous pourrez penser aux épices.
Alors, c'est quoi la petite recette d'aujourd'hui ? C'est pour nous calmer là que vous nous avez amené des choses ?
C'est pour plein de choses, plein de bienfaits en fait. Comme je vous parlais de l'importance des épices et de la saisonnalité, du coup, je voulais vous partager l'une de mes petites recettes réconfortantes préférées. C'est le lait d'or.
Lait d'or.
Le fameux golden latte au curcuma.
Génial.
Il doit son nom à sa très jolie petite couleur dorée.
Donc on en a un, je vais passer, c'est ça, les petits golden.
Ouais, je vais vous,
mais il y a quoi dedans?
Je vais vous faire goûter. Alors, il y a plein de choses, je vais vous donner la recette.
S'il vous plaît. Je vais passer des gobelets, donc c'est déjà très joli. Hein,
expliquez-nous tout. C'est bien
c'est
doré.
Bon aussi.
Vous allez pouvoir la boire à n'importe quel moment. Moi, j'aime bien me la faire avant d'aller me coucher.
Ouais.
C'est ça fait super bien dormir.
C'est bon. Racontez-nous tout.
Super. Alors, du coup, vous voulez que je vous donne la recette?
Évidemment.
D'abord.
Oui. Ok.
Alors, en fait, l'idée, c'est de préparer une pâte d'épices.
Oh, c'est bon ça.
Ça va nous servir de base, et après, on va ajouter du lait.
D'accord.
Et en fait, cette boisson, elle va être parfaite pour réguler le stress, pour brûler les graisses et pour booster l'immunité également. Et l'avantage, c'est que toutes les épices que j'ai utilisées, elles vont agir en synergie pour renforcer leurs bienfaits.
Donc, c'est délicieux, franchement.
C'est très, très incroyable. Ça vous plaît? Et bien, je suis ravie.
C'est délicieux.
Ça vous prépare avant le repas.
C'est un peu la tiède. C'est tiède, là, en l'occurrence. Il y a à la fois un côté épicé et très, très doux. Franchement, on dirait.
C'est super.
Moi, je sais pas, ça me rappelle, entre guillemets, le lait de poule de Noël. Mais pourtant, il n'y a pas.
Ça se boit comme du petit lait.
C'est incroyable.
Comment on le fait à la maison?
Alors, on va réunir une tasse de lait végétal. Donc, soja, amande, avoine, coco.
Il y a quoi là-dedans, dans celui qu'on est en train de boire?
Moi, j'ai utilisé du lait de soja.
D'accord, très bon.
C'est le plus neutre qui soit, j'ai envie de dire. Ensuite, on a besoin d'une cuillère à café de miel ou de sucrant au choix. Attention, hein, ça tâche quand même.
J'ai failli me le renverser sur mon chemisier blanc.
Ce serait dommage.
Oui, parce que c'est tout jaune, hein, cette boisson qu'on est en train de boire, d'où le nom lait d'or. Hein,
ouais.
C'est ça, oui. J'ai la petite bouteille pour ceux qui peuvent regarder sur europe1.fr.
On vous
mettra
la
ça
recette,
sur les réseaux sociaux.
Ouais, tout à fait. Alors, on a besoin également de 2 cuillères à café d'huile de coco. Vous pouvez aussi utiliser du ghee, hein, qui est le beurre clarifié indien et qui a tous les avantages du beurre sans les inconvénients puisqu'il ne va pas créer de cholestérol et qu'il est excellent pour le système digestif. Et du côté des épices, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de curcuma. Donc parmi ses avantages, on en parlait tout à l'heure, il va stimuler le foie, soutenir la digestion, calmer l'anxiété et purifier le sang comme la peau. On a besoin également de 3 cuillères à café de cannelle qui est digestive, antioxydante et antibactérienne. Une cuillère à café de gingembre, anti-inflammatoire et antioxydant. Également, une cuillère à café de cardamome, qui est stimulante, tonifiante et légèrement aphrodisiaque. Hein, vous pouvez y penser pour
on
vos folies.
Je vois que des vertus là-dedans, hein, c'est incroyable.
Et pour terminer, une pincée de poivre, parce qu'il va décupler les vertus du curcuma,
comme
le gingembre.
Je me disais qu'il y avait un peu de poivre, mais en même temps, c'est pas désagréable. Hein, c'est vraiment
c'est
génial.
C'est vraiment une petite pincée.
Et on fait réchauffer?
C'est vraiment le plus simple qui soit pour le procéder, en fait, dans une petite casserole. Vous allez commencer par faire chauffer le curcuma avec 10 centilitres d'eau à feu doux. Mmh. Dès que le mélange est homogène, vous intégrez le reste des épices et l'huile de coco en mélangeant pendant 5 minutes, toujours à feu doux, jusqu'à obtenir la texture d'une espèce de pâte à modeler. Mmh. De là, vous récupérez une belle cuillère à café de la pâte d'épices. Hein, regardez, elle est là. Hop, hop, hop. Et vous la faites chauffer à nouveau à la casserole avec le lait. Ensuite, vous ajoutez du miel ou le sucrant de votre choix. Vous mélangez tout et puis c'est prêt.
Ah bah c'est génial, Margot. Mais vous savez, je vais vraiment le refaire à la maison. Ouais. Je ne sais pas vous, mais
Maud Ravier
bon
à côté de Julia.
Ah non, mais
Julia,
je suis
incroyable.
Vraiment stupéfaite. C'est très, Sois-y, très bon.
Vous avez
délicieux.
Fini votre gobelet aussi.
Oui, moi
incroyable. Vu. Vous pouvez m'en resservir un petit peu.
Je vous laisserai la petite pâte d'épices si vous voulez vous en faire à la maison.
Génial. Merci beaucoup, Margot, pour cette découverte culinaire et ces conseils simples pour reproduire ce voyage gustatif chez nous. On a bien pris note avec Mélanie. Vous pouvez trouver plein de recettes ayurvédiques et autres sur le blog et l'Instagram de margotamassos.com et margot-amassos sur Instagram. Restez avec nous, la séquence tendance revient très rapidement. On va essayer de comprendre, nous les vieux, pourquoi les jeunes s'emballent autant et encore en 2021 à cause des fameuses cartes Pokémon. Et enfin, des conseils beauté également arrivent pour avoir de jolis cils et un regard de braise. Vous êtes bien sûr Europe 1. C'est bien fait pour vous, nous sommes dans notre séquence tendance. On va décrypter dans un instant le mystère autour de la mode qui dure de façon incroyable sur les cartes Pokémon. Et puis des conseils beauté également à venir sur Europe 1.
Caisse d'épargne. 27%, c'est le nombre de Français stressés au volant. 27% qui voudraient se sentir plus sereins en voiture. 27% pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en intégrant des stages de conduite dans son assurance auto. Caisse d'épargne, vous être utile. En ce moment, 2 mois offerts pour toute souscription d'un contrat assurance auto du 11 octobre au 13 novembre inclus.
Assurance Auto est un contrat de BPCE Assurance distribué par la Caisse d'épargne intermédiaire en assurance inscrit à l'Orias. Garantie soumise à condition. Voir précision en agence.
Ford. Dans un monde parfait, l'utilitaire de votre entreprise est un Ford Transit.
C'est évident.
Et dans un monde parfait, le carburant coûterait deux fois moins cher.
Et pourquoi pas?
Alors vous allez adorer le Ford Transit Connect E85, l'utilitaire plus que parfait. Le Ford Transit Connect est le seul utilitaire roulant au super-éthanol E85, le carburant deux fois moins cher. Venez vite chez Ford pour bénéficier d'une offre de lancement exceptionnelle. Ford.
Comparez le prix des carburants sur prix-carburant.gouv.fr.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Nos trois chroniqueuses du jour sont toujours confortablement installées derrière leur micro. Margot Grossman qui vient de nous faire découvrir la cuisine.
Et le lait d'or, incroyable, la bouteille est vide, hein, j'ai jamais vu ça.
C'est extraordinaire, ayurvédique. Mais ça, je vais recommencer à la maison, merci beaucoup. Maud Ravier qui va bientôt nous distiller ses conseils beauté. Et enfin, Soizic Belin avec qui on va jouer. On va parler des cartes Pokémon, c'est bien ça?
C'est bien ça, 25 ans, ces petits mots. Monstres, c'est Poketo Monsuta, fête leur anniversaire. C'est en 1996 que naissent ces drôles de petites bestioles au nom encore plus farfelu que leur apparence. Ils sont effrayants, ils sont colorés, drôles et touchants. Le plus connu de tous, la mascotte, c'est
Pikachu.
Pikachu,
Pikachu
évidemment. Oui, oui. Je sais que vous savez faire le petit
Pikachu.
Voilà.
Oh, c'est à force de boire du lait d'or, c'est jaune, hein, on se transforme en Pikachu.
Alors pour la petite histoire, ces sortes d'animaux imaginaires ont été inventés par un japonais. Jusque-là, rien de très original, vous vous en doutiez. Satoshi Tajiri avait dans son enfance un élevage de criquets qu'il faisait concourir. Selon lui, ces insectes prenaient de la force et gagnaient en expérience plus ils vieillissaient. C'est sur ce principe qu'il conçut les Pokémon avec leur système évolutif. Il y en a en tout 901 espèces et 18 types liés à des éléments, notamment le feu, plantes, combats, vols. Alors, c'est un univers assez riche hein, qui réunit de nombreux adeptes dans le monde entier. Le but du jeu est simple. Il y a des Pokémon qu'il va falloir capturer à l'état de nature, les dresser et les transporter dans des Pokéballs pour participer à des combats et passer du titre de dresseur à maître Pokémon. Alors, toutes les infos que vous devez connaître sur ces monstres, sur leur pouvoir, se trouvent sur des Pokédex. Voilà pour le résumé assez grossier pour ceux qui
seraient totalement... On a compris la règle du jeu voilà. À peu près là.
Voilà. Alors le jeu vidéo sort en 1996. Par la suite, le dessin animé permet de diffuser mondialement l'univers des petites bestioles bigarrées avec le personnage de Sacha, le jeune dresseur de Pokémon, ami de Pikachu. Sachez que dans la vie réelle, il y a de véritables compétitions qui sont organisées chaque année.
Sérieusement ?
Eh oui, elles reprennent d'ailleurs donc, ce principe-là de combat. Cette année, pour le plus grand bonheur des adeptes, ça reprend parce que l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Le championnat du monde aura lieu à Londres et lors de ces championnats, vous retrouverez des gamers mais aussi des joueurs de cartes. Cartes qui sont aussi des cartes de collection.
D'accord. Alors justement, Soizic, les cartes Pokémon, c'est un peu la folie du côté des enfants mais aussi des parents. Il y a un véritable engouement, un peu comme si c'était le cas pour certaines collections de Panini à une
voilà,
autre
vous
époque.
Vous vous souvenez des Panini. Alors, c'est un véritable phénomène, comme vous le disiez. Lundi, je suis allée en boutique, là où vous allez pouvoir retrouver dès aujourd'hui les nouveaux coffrets de cartes Pokémon.
Comment expliquez-vous la spéculation autour des cartes Pokémon ?
Alors vous avez un phénomène de taux de rareté, donc une chance sur plusieurs centaines des fois d'avoir la carte, ce qui fait que vous avez des spéculations autour de ces cartes-là pour faire grimper le prix à la revente.
Donc là, mercredi, sort la nouvelle saison, donc on ne dit pas saison, mais vous allez me dire comment on appelle ça, Pokémon, c'est pour fêter les 25 ans, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement pour fêter les 25 ans de Pokémon. Donc on appelle ça un set. Vous avez différents sets tout au long de l'année, sachant que celui qui sort dans deux jours est le plus attendu de tous, avec justement pour la carte la plus rare un taux de chance de 1 sur 96 de pouvoir l'avoir dans le set.
Donc une carte qui vaudrait combien au final ?
À la revente entre 1000 et 1200 euros à sa sortie et plusieurs milliers d'euros d'ici quelques mois.
Et donc c'est quelle carte ? Quel est le personnage sur la carte ?
Alors vous en avez deux, vous avez Pikachu qui est la mascotte de Pokémon depuis sa création et vous avez Dracaufeu qui est un des Pokémon les plus appréciés derrière Pikachu qui vont être sujets au plus de spéculations.
Ça sort aujourd'hui, mon Dieu, oui, je ne savais pas ça.
Ça sort aujourd'hui.
Ah, d'accord,
okay. Voilà donc une collection de cartes qui va au-delà d'un jeu de cours d'école, vous l'avez compris. Et puis sinon, petite info importante pour ceux qui ont du mal à jeter leurs jouets d'enfance et pour les autres, désolé.
Oui,
bah, donc là, si on avait gardé nos anciennes cartes de première génération, combien elles pourraient valoir aujourd'hui ?
Alors la plus rare se revendrait pratiquement 20 000 euros. Et vous êtes sur une moyenne entre 1000 et 2000 euros pour des cartes standards de la première génération.
Et comment on fait pour les authentifier ?
Alors, les yeux les plus avisés sauront le faire eux-mêmes. Sinon, vous avez des entreprises, notamment PCA, qui s'occupent d'expertiser les cartes pour pouvoir les certifier et leur donner justement toute leur valeur.
C'est possible. Mais
je crois que j'ai jeté les albums l'été dernier de mon frère, mais c'est pas vrai.
Mais moi, j'ai jeté des trucs. Vous savez, fan de rangement, j'ai tout jeté.
Mon Dieu, on a jeté des milliers d'euros.
Il ne faut pas tout jeter. Alors, ceux qui n'ont pas jeté, retrouvez-les rapidement.
Bravo. Merci. Qu'est-ce que vous préconisez alors justement pour ceux qui ont jeté leurs anciennes cartes Pokémon ?
La marche.
Comment la marche,
ça détend, la marche, ça fait du bien. Quand on sait qu'on vient de perdre 20 000 euros, marcher, ça fait du bien. Trêve de plaisanterie, le jeu Pokémon Go est fait pour ça. Vous savez, ce fameux jeu qui suffit déjà de charger l'application sur votre téléphone. Et à partir de là, vous partez à la chasse aux Pokémon. Et il paraît que pour Halloween, il y aura de jolies surprises. Et en tout cas, ne dérogez pas à la devise des Pokémon.
Ça rappelle des souvenirs. Moi, mes frères étaient fous de ces trucs-là, mon fils aussi. Enfin bref, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai un ovni de 12 ans qui a jeté toutes ses cartes Pokémon il y a 2 ans, mais qui tout d'un coup au collège s'y remet. Bah, c'est un truc, c'est indémonable, c'est incroyable.
Je vais aller à la cave en rentrant. Moi.
C'est... Ah, vous les avez encore,
je les ai encore.
Tous dans la cave, Margot, c'est incroyable.
Vous êtes riche. Je suis riche.
Bon, Maud Ravier, je ne sais pas si vous avez des cartes Pokémon, mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose avec vous. On a besoin de vos conseils d'experte pour raviver un petit peu ce regard-là qui se ternit peut-être en automne. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos cils?
Bon, alors il y a plein de techniques, mais la technique un peu glamour en ce moment, c'est quand même les extensions de cils.
Oui, tout le monde en a, mais alors justement, moi j'adore, mais parfois c'est trop, il y a plusieurs...
Complètement.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs techniques.
Il y a plusieurs styles, soit on va choisir un style naturel, cils à cils, c'est-à-dire qu'on prend un cil, fibre de soie très fin, qu'on vient coller cil par cil, et là on est sur une pose naturelle. Soit on a envie d'un petit peu plus de glamour, on va choisir la technique volume russe, et là en fait il faut comprendre que ce sont 3 cils qui sont posés sur un cil, donc clairement on a beaucoup plus de volume.
D'accord. C'est peut-être un secret, mais on peut vous poser la question, vous, vos cils magnifiques, là c'est des vrais ou pas?
Non, c'est pas des vrais.
Ça se demande pas.
Alors, non, ce qui est génial, c'est que si vous me demandez, c'est qu'a priori ils sont naturels.
Mais ils sont magnifiques surtout.
Donc c'est ça l'intérêt, c'est qui alors
Ah non, coquine.
C'est fait ou c'est pas fait?
Bah, c'est très très bien fait, c'est très joli.
Mais ce sont des faux.
Ah oui, là là. Et c'est un volume russe ou un volume naturel?
Non, c'est un volume russe, mais comme je prends une courbure très naturelle, ça reste vraiment élégant. Parce qu'il y a plusieurs courbures dans les lignes de cils. Soit très très recourbé, et dans ce cas-là, on voit tout de suite, et soit on garde une courbure toute douce, et là je vous conseille,
c'est
mieux.
Vous irez voir Maud sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, elle a des cils magnifiques. Alors quels sont les avantages, Maud?
Les avantages, évidemment, d'avoir des yeux toujours impeccables. Je pense que nous, les femmes, on sait ce que c'est que cet avantage. On se lève, on est impeccable, on va à la piscine, on est impeccable. Le mascara qui ne coule pas, on ne se démaquille pas. Voilà, c'est le luxe absolu.
Alors, vous dites on va à la piscine, ça veut dire que ça risque pas de tomber, justement quand...
Non, ce sont des vrais cols, donc des cols hypoallergéniques.
Ça abîme pas les cils, du coup?
Alors, ça peut abîmer les cils si c'est mal fait, si les cols ne sont pas bonnes, et surtout si les cils sont trop épais et que du coup, ils prennent du poids sur la ligne de cils naturelle. Il faut faire attention aussi chez qui on va, c'est-à-dire que si elle utilise des cols très bas de gamme, ça peut brûler un petit peu le cil, et surtout aussi si vous avez affaire à une mauvaise technicienne, elle va mettre des cils synthétiques partout, même sur les bébés cils, donc ça les casse.
C'est quoi les bébés cils?
C'est les cils qui sont en train de naître.
Parce que ça repousse en permanence,
c'est
comme les cheveux normalement.
Les tout petits cils,
voilà. Si on colle dessus, on peut être sûr qu'on les casse, après on ne pourra plus faire d'extension.
Vous qui pratiquez ça dans votre salon, votre institut, c'est de quoi comme colle? Qu'est-ce qu'on demande justement? Parce que vous dites attention à la colle qui sera utilisée, mais moi je ne sais pas, entre la colle UU, la colle...
Déjà il faut aller sur des belles marques françaises, j'ai envie de dire, des colles certifiées européennes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles qu'on pourrait trouver
un petit peu... Des colles véganes,
ça
existe, hein, des colles
Alors oui,
véganes,
tout à fait, des colles véganes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles... des cols qu'on pourrait trouver bas de gamme, d'un mauvais marché. Et d'ailleurs, on le sent quand on pose l'extension de cils, tout de suite, ça brûle les yeux. Donc, il faut faire attention à ça aussi.
Et dites-moi, ça dure longtemps, ça, ces extensions?
Alors, soit on se fait un petit plaisir avant un mariage, avant une fête, et dans ce cas-là, on est sûr que pendant 3 semaines, 1 mois, on a un regard de biche assuré. Et puis après, on laisse l'extension de cils s'en aller naturellement.
C'est-à-dire ça tombe?
Oui, ça tombe avec le cycle des cils.
Cils après cils, quoi. On perd pas tous les cils le même jour. Quoi.
Non.
Non, je me retrouve un jour avec un œil avec des cils, l'autre sans cils.
C'est ballot.
Excusez-moi, mais très bonne question. Encore une très très bonne question de Mélanie
Gomez. Parce que j'y connais rien.
C'est pas bizarre justement si on perd pas tous les cils en même temps, parce qu'on peut avoir, l'œil l'œil gauche encore bien fourni.
Si à un moment donné, il peut rester quelques touffes de cils, et dans ce cas-là, c'est bien aussi d'aller les faire retirer chez la professionnelle. Oui. Donc vous avez cette solution-là quand c'est juste pour une fête, et sinon vous avez, comme moi ou comme beaucoup de femmes, parce qu'après on est complètement addict, c'est de faire des retouches toutes les 3 semaines, 1 mois.
Donc vous êtes tout le temps d'assurer. Comme ça en fait, c'est ça.
Bah ouais, je suis désolée.
Mais non, vous avez bien de la chance.
Les jolis cils, d'ailleurs, on les maquille. Ou ils sont déjà maquillés.
Alors ils sont déjà épais, noirs et fournis. Donc normalement c'est pas la peine de les maquiller. Mais il existe des mascaras exprès pour les extensions de cils. C'est-à-dire que si un soir vous avez envie d'un petit peu plus encore de volume, il existe des mascaras à base d'eau.
Est-ce que elle vous regarde sur toutes les coutures.
Mais je vois, s'approche. Elle va me le tirer pour que ça soit naturel.
C'est magnifique. Les vôtres, vous les avez maquillés par exemple là. Vous avez rajouté un peu de mascara.
Non, j'ai pas rajouté de mascara, mais je suis en fin d'extension. Là, je dois refaire la semaine prochaine.
D'ailleurs, ils vont tomber.
Il y a des trous.
Combien ça coûte? C'est important ça aussi, le tarif quand même.
Alors, une pose naturelle, c'est 150.
Voilà, en
et
moyenne.
Et puis,
hein.
Oui, une volume russe, il faut compter 250-300 euros.
Et les retouches?
Et les retouches sont moins onéreuses, bien sûr, parce que ça prend moins de temps. C'est quand même un travail très minutieux et très précis. On colle cils par cils. Il faut compter entre 80 et 100 euros.
Dernière question rapide. Si je ne supporte pas les extensions de cils, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour avoir des yeux comme vous, Maud?
Bon, c'est important, parce que c'est vrai que parfois, on peut être allergique aux extensions de cils. Il y a une nouvelle mode, ce sont les cils magnétiques. Donc, c'est très compliqué à mettre au début. C'est 10-15 minutes d'apprentissage, mais après, c'est d'une facilité rare. Et après, ce qui est exceptionnel, c'est les produits tels que Revitalash, Mise en cils. Ce sont des produits qui sont extrêmement compétents pour faire pousser la pousse naturelle des cils.
Ouais, moi, je les ai utilisés.
C'est génial. Oui.
Merci beaucoup, Maud. Merci à toutes les trois pour ces conseils beauté, ces découvertes culinaires et ce décryptage de tendances. Allez, voilà, cette émission est terminée. Mélanie, j'espère que vous avez passé un bon moment.
Oui, nos
compagnie.
Auditeurs aussi, j'espère.
J'espère. On va se retrouver demain à 11h. Et quel sera notre programme, Mélanie?
Eh bien, demain, Julia, on va essayer de mettre de côté un peu la pandémie, qui n'est certes pas finie, mais on va essayer de regarder notre santé d'un point de vue plus global. Les Français ont toujours des problèmes cardiaques, de nutrition ou encore d'autres maladies. Alors, on verra quels sont les conseils essentiels pour être et rester en bonne santé. Des conseils qui s'appliquent à tous. Ce sera une émission en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé.
Et demain, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendance, de la gastronomie toujours, d'autres conseils beauté d'ici là. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.